Renault.
Souvent, les gens me demandent « Allez, José, refais-nous machin qu'on rigole !» Mais non, il faut l'ambiance, la bonne température, ni trop chaud, ni trop froid. Mais quand c'est bien réglé, attention, mon bonhomme.
Roulez à la bonne température. En ce moment, chez Renault Car Service, bénéficiez de 40 euros déduits sur votre recharge climatisation pour tout véhicule. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Offre à particulier jusqu'au 31 août 2024. Conditions et prise de rendez-vous sur Renault.fr ou sur l'appli MyRenault. L'Automobile Magazine, classement des lecteurs 2023.
Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h. Le Super Moscato Show en direct de Marseille pour l'arrivée de la flamme.
Vincent Moscato.
Allez, c'est parti, le Super Moscato Show. On y revient au Mastic, bien entendu. On est à Marseille, là. Et voilà, ils sont là, tous les supporters du PSG. Non, pas du PSG, de l'OM, bien entendu. On est à Dortmund, il y a plein d'Allemands aujourd'hui, bravo. On est avec Eric Dimeco, comment il va Eric? T'es en forme ou quoi mon poulet? Appuie sur le bouton, ça marchera mieux.
C'est pas salut grave. Vincent, salut à tous.
Nous sommes avec Steve Founébré.
Salut Vincent. Je dis pas bonjour à Eric.
Salut Vincent, il fait beau à Marseille. Ah merci Eric pour le soleil. Voilà, on est à Marseille sur le Vieux-Port, c'est magnifique.
Ah bah oui, pour l'arrivée de la flamme, bien sûr. Pierrot.
Alors c'est une émission exceptionnelle, Vincent, pour l'arrivée en effet de la flamme olympique. Elle sera là tout à l'heure à 19h30.
C'est dingue,
tu vas la voir sortir du Bélem et arriver. Et puis un personnage encore inconnu, mais sur lequel on a des doutes, va allumer un chaudron qui sera le chaudron olympique pour Marseille pour toute la durée des JO.
Le père Fourin.
Alors pour célébrer tout ça, il y a plein de choses aujourd'hui. Il y a notamment un concert avec Soprano et Alonso, un concert gratuit à 20h30 sur le Vieux-Port. On est en direct tout de suite avec la star. La méga star Soprano, il est là dans le Super Moscato Show.
Comment ça va Vincent? Comment ça va Eric? Comment ça va
salut,
tout le monde?
Sopra.
Salut
Sopra. On s'accroche.
Bienvenue.
Il fait chaud un peu sur la canne de bière, mais merci.
Ah, il fait trop chaud.
Super Moscato Show. Merci, merci. Mais toi, t'es jeune encore, tu résistes à la chaleur.
Sopra, on connaît ta popularité en France et surtout ici à Marseille. Ta carrière brillante, tes concerts nombreux. Aujourd'hui, dans ta ville, tu vas chanter pour célébrer l'arrivée de la flamme olympique. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Est-ce que ça a une signification particulière pour toi?
Ah, c'est incroyable. Le Bélem, il arrive sur le Vieux-Port. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et en plus, je termine les festivités de cette arrivée en plein milieu devant tout mon pays, comme on dit. C'est magnifique.
150 000 personnes, Sopra.
Oh là là, c'est incroyable.
T'es la Madonna de la Canebière. On peut le dire.
Madonna, elle a fait 1 million quand même. C'est ça qu'elle a fait.
Un million et demi. Au Brésil, ici, il y a 500 000 habitants. C'est magnifique.
On est des Marseillais, on peut exagérer. On peut dire que je suis le Madonna de ce soir. Vas-y.
150 000 personnes, c'est ton record, Sopra? Toi qui as fait des stades.
Oui, c'est mon record. J'avais fait en Guinée, on avait fait 110 000 personnes. Et le Stade de France, on était 85, c'était incroyable. Mais là,
t'as jamais fait le Parc des Princes, hein, c'est pas long,
populaire à Paris,
non, tranquille, me mettez pas des problèmes après le match d'hier, s'il vous plaît.
On a un match demain,
vous s'il vous plaît, je veux pas porter la guigne.
Sopra, quand tu fais 110 000 à la fin du concert, t'as pas envie de passer avec un chapeau, on s'emballe chacun quand même. Ça te revient pas, ça te remonte pas.
Soprano en direct dans le Super Moscato Show. Dis-moi, tout à l'heure, donc la flamme va descendre du Bélem. Elle sera ensuite conduite jusqu'au chaudron où la flamme olympique va être allumée. Est-ce que tu aimerais que ce soit Zizou qui allume ce chaudron? Parce qu'évidemment, son nom est très murmuré, ce n'est pas du tout officiel. L'info n'est absolument pas certaine, mais ça peut arriver.
Ah, ce serait incroyable. Ce serait même, tu vois, un symbole super fort. À Marseille, notre plus grand joueur de tous les temps français, qui est marseillais, allume la flamme. Ce serait extraordinaire, tu vois.
C'est vrai qu'on aurait aimé que ce soit Eric.
Derrière, il annonce que l'année prochaine, l'entraînement.
Moi, j'ai entendu dire que c'était Eric.
T'imagines, il fait ça? Oh purée.
Non mais
je fais une crise cardiaque. S'il fait ça, je fais une crise cardiaque.
Sopra, tu es la star de la soirée avec la personne qui va allumer ce chaudron.
Il y a Alonso qui est là.
Sopra, tu dois le savoir là, si Zizou est là ce soir ou pas. Tu le sais déjà.
Dis-le-nous.
Je te dis la vérité, je ne le sais pas.
Franchement, j'ai l'impression
vraiment qu'ils sont en train de mettre une pression sur le nom pour le cacher et tout. Je suis juste à côté de vous, moi je suis juste là.
On te fait coucou là.
aéroport aussi. Ouais.
Je le sais, Soprano. Tu sais qui c'est?
C'est qui?
C'est qui?
C'est Jamel. C'est Jamel, ils ont pas de trompe de main qui se brûlent les couilles.
Oh, viens, écoutez-le.
Bienvenue dans Moscato Show, Soprano.
Soprano dans le super Moscato Show. On est en direct de Marseille sur RMC. Eric avec
Soprano. Ouais, non, moi, un petit message pour Soprano parce que moi, c'est toujours émouvant quand je vois la carrière que fait Soprano. Il s'en souvient, il savait pas que c'était moi qui avais organisé ça, mais quand je suis devenu élu fin des années 90, début 2000, avec Psychiatre de la Rime, on avait fait un projet qui s'appelait Planète Jeune, et sa première plus grande salle, c'est-à-dire au Dôme de Marseille, il avait fait grâce à un projet que j'avais mis en place à l'époque.
Ouais, c'est vrai.
Et Soprano, on en avait parlé, mais il savait pas que c'était moi l'élu en question.
Eh ben non, je savais pas. On avait fait le tournoi de basket, le tournoi de foot. Merci Eric.
Eric, c'est toi qui as créé Soprano un peu, ça que
t'as fait. Ah, du tout, il n'avait pas besoin de moi. Sauf que la première grosse salle que tu fais au Dôme, quand tu as 16-17 ans, tu joues au Dôme et que tu es marseillais,
dis-moi
Soprano. J'étais avec Alonso.
Oui, c'est ça. Eric a un groupe, il fait des reprises d'Oasis, il aimerait bien faire ta première partie.
Non, mais laisse tomber, ne réponds pas à leur connerie, s'il te plaît.
Soprano, il y a la flamme olympique qui arrive à Marseille, t'as une passion aussi, on le sait, c'est le football. Demain, il y a un match très important. Nous, on vient d'arriver à Marseille ce matin, tout le monde nous en parle. Atalanta Bergame, Olympique de Marseille, le match retour demain. Oui. Dis-nous ton sentiment. Comment tu le sens? Est-ce que les Marseillais vont faire l'exploit et aller en finale?
Ah, oh, quand même pas.
Franchement, je te dis la vérité, il y a une effervescence en ce moment-là. Là, on le voit, avec la flamme. Je pense que ça peut nous porter des ailes et nous porter chance pour le match de demain. Par contre, ce soir, je préviens maintenant, ce soir, je risque de faire quelque chose. Tu sais, quand tu as le micro devant plein de personnes et que tu sais qu'il n'y a personne qui peut te le couper, je vais envoyer un petit message pour le club pour demain, pour leur souhaiter un bon courage. Mais je ne spoil rien.
T'aurais pu le faire hier pour
Paris.
Du PSG, quand même.
Ah, il y avait un match hier, je ne savais pas, les gars.
Sopra, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton concert ce soir? Est-ce que tu adaptes le show à l'événement? Est-ce qu'il va y avoir une petite référence olympique ou quelque chose comme ça?
Oui, il y aura un petit, surtout avec ma chanson Coach. Ma chanson Coach, bien sûr, qui est une référence au sport. Voilà.
Donc, il y aura un nouveau morceau qui est sorti aujourd'hui, Soprano.
Celui-là, il est pour toi. Facile à danser, à chacun sa manière de danser.
Tu peux même danser sur une jambe. Ce soir, tu vas mettre le feu avec ça, tu le sais. Hein.
On va essayer de faire danser tout le monde pour que tout le monde soit heureux de l'arrivée de la femme et que tout le monde puisse être uni. Je vois plein de gens là sur le Vieux-Port là. C'est un truc de fou. C'est un truc de
hommage au PSG, la première que tu chantes, c'est en allemand, on m'a dit.
L'hymne de Dortmund. T'imagines?
Avec un maillot jaune, c'est ça,
ouais, c'est ça. Ta passion pour l'OM, on la connaît. Est-ce que tu as une passion similaire pour les sports olympiques? Est-ce que tu vas suivre les JO de Paris avec ferveur?
Oui, il y a des. Moi, j'aime bien le paddle. Je sais pas s'il y a le paddle dans le truc. Moi, j'aimerais bien. Il va falloir le mettre, les gars.
Peut-être.
Il va falloir le mettre.
Ça viendra un jour. Hein.
L'athlétisme.
Je t'explique. À Marseille, maintenant, même dans les quartiers, ils commencent à jouer au paddle. Donc, il va falloir le mettre. Mais si tu me poses la question par rapport à ce qu'il y a dans les jeux, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup tout ce qui est relais, tout ce qui est, voilà.
Le basket aussi. Les quartiers parce que ça leur rappelle basket. La prison, le grillage autour du paddle, comme ça.
Voilà, tu vois. Et quand on joue au Z5 juste à côté de l'une, tu vois, on est à côté, tu vois. Mais vraiment, ce que j'aime bien, moi, c'est quand même le course en relais et le basket.
Ah, bravo, c'est le basket.
On a des chances en plus avec Gobert, Wembanyama et compagnie.
On peut être champion du monde. Tout à fait, être champion olympique.
Wembanyama, il est en train de faire une saison extraordinaire. Tu sais, quand tu organisais tes planètes jeunes, à la base, je ne jouais pas au foot, là, je faisais du basket.
On t'a fait venir, c'est pour dire des conneries, pour arrêter tout de suite aussi. C'est ce que l'on dit, qui était un bon basketteur, il se casse de suite, on est venu à Marseille pour
Non, j'ai arrêté très vite. Je vais te faire une confidence. Ouais, j'ai été champion dans ma vie pour un seul truc, le badminton. Oui, le badminton. J'étais champion de badminton.
Le badminton.
Comme Eric.
C'est fou ce truc. En dessous de la Loire, vous n'arrivez pas à le prononcer, ce mot. C'est incroyable.
Le badminton.
Comment tu le dis?
Le badminton.
Le badminton, c'est ça?
Mais non.
voilà. Sopra, c'est le badminton, laissez-les dire.
Voilà. C'est quoi, tu le dis comme ça vient, tu dis badminton.
Et voilà, en plus, c'est parti. Merci beaucoup, Sopra, d'être resté avec nous dans le Super Moscato Show.
Plaisir, les amis.
Je rappelle, le concert, c'est ce soir 20h30, concert gratuit avec Alonso sur le Vieux-Port. Il y a aussi un projet au cinéma et un tournage, je crois, à Marseille, hein. Marius et les gardiens de la cité phocéenne.
C'est ça, on est en train de travailler, on est en train de faire un film sur Marseille, un super film avec des jeunes où on parle un peu de la ville et c'est super rigolo. Et j'arrive bientôt, hein. Je viens vous voir le 21 juin, je sors mon album pour fêter la musique. J'espère que je viendrai faire la fête avec vous.
On t'attend. Sopra, il est stressé, Zizou, là, avant ce soir ou pas?
Alors, Zizou, je sais pas s'il est à Marseille, les gars. Hein.
Merci Sopra.
Pas nous pour des truffes. Ouais, merci Sopra. On t'embrasse, mon poulet. Merci beaucoup d'être venu.
Allez, je vous fais des bisous.
Ciao,
les gars. En direct sur RMC. Vincent, tu le connais un peu? Tu l'as rencontré deux, trois fois?
Ouais, j'ai fait un bras de fer avec lui, je l'ai battu.
Entre stars du showbiz, je suppose que vous côtoyez.
Je peux pas dire certains trucs, c'est comme sur Zizou, je parie.
Eric a raison, c'est incroyable le parcours. Tu remplis des stades, tu l'as connu tout minot. Enfin, c'est comme un joueur de foot que t'as vu jouer en poussin qui se retrouve champion du monde.
Et alors en plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il a pas changé. Je l'ai croisé il y a pas longtemps. Dans une petite rue derrière, il était dans une petite voiture avec un ami, il faisait un déménagement.
Nature peinture, quoi.
Et il s'est arrêté,
comme Vincent, il n'a pas changé.
Ouais. Franchement, c'est super gars, même.
Alors, Vincent, les invités vont se succéder et restez bien avec nous parce qu'à 17h, c'est un seigneur, comme on dit chez toi.
Seigneur.
Qui sera avec nous, quelqu'un qui est adoré, adulé. Ici à Marseille, une méga star du foot mondial, Didier Drogba.
Drogba, Didier.
On Monsieur Didier, Moscato Show, c'est la première fois qu'on le recevra.
J'ai une super anecdote aussi. Il chantait à l'époque dans le truc, c'est le mec. Non, mais j'ai une super anecdote avec lui, ça se souviendra, tu verras.
Quand vous n'avez pas travaillé à l'école, ici vous chantez, quoi, si j'ai compris.
Didier Drogba, invité du Moscato Show à 17h. On parlera bien sûr beaucoup de l'actualité de l'Olympique de Marseille et de cette demi-finale retour de Ligue Europa contre l'Atalanta Bergame. L'actualité, c'est aussi bien sûr. Le foot, la Ligue des Champions avec le PSG éliminé hier en demi-finale. 16h, PSG, est-ce un fiasco de plus? Vincent, tu règles le problème, tu me donneras ton avis là-dessus. Et d'abord, on va démarrer par Mbappé. A-t-il encore des excuses? Journal moyen, 15h45, Adrien.
Oui, c'est une information RMC Sport. Une énorme star, Vincent, on a enquêté. Une énorme star internationale viendra conclure les Jeux Olympiques de Paris 2024. La cérémonie de clôture. C'est pas toi, Vincent?
Mohamed Ali.
Non, c'est pas lui.
C'est pas lui.
Peut-être aussi connu aujourd'hui que Mohamed Ali.
Laurent Deutsch.
Rendez-vous 15h45.
Laurent Deutsch.
Mimimet.
Pourquoi? Allez, on revient tout de suite dans le Super.
On est là, Vincent.
Le Kikadi vous offre, comme chaque jour, cette semaine, votre séjour en mobilhome dans un camping au mer en pension complète. Vous envoyez Kikadi par SMS au 732-16. Tout de suite, le rêve de Mbappé a pris fin hier.
Le Super Moscato Show.
C'est fini, c'est terminé. Dortmund se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain est éliminé aux portes de la finale.
Je me déçois énormément.
J'ai essayé d'aider mon équipe du mieux que je pouvais. C'était pas suffisant. C'est la vie. Il faut se remettre de ça, continuer à travailler, que ce soit moi ou l'équipe.
Et toi, la gêne la gueule à coup de cravache.
J'aime pas trop parler de malchance.
Je suis colère, les enfants. Je suis colère, je suis violence parce que je suis trahison.
Oh, mais c'est pas vrai.
Breaking news.
Alors le PSG éliminé donc par Dortmund en demi-finale. Mbappé a fait un de ses plus mauvais matchs de la saison. Mbappé a-t-il encore des excuses? 32-16 si vous voulez défendre Kylian Mbappé ou le critiquer. Et évidemment, les deux sont possibles. Le hashtag RMC Live, c'est sur Twitter. On va l'écouter faire son autocritique à l'issue de cette rencontre. Kylian Mbappé.
Là, j'ai essayé d'aider mon équipe du mieux que je pouvais. C'était pas suffisant. Quand on parle d'efficacité dans les surfaces, je pense être le premier visé. Je suis le gars qui doit marquer les buts, qui doit être décisif. Quand ça se passe, je suis ici et je prends toute la lumière. Quand ça marche pas, il faut prendre toute l'ombre aussi. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Je pense que le premier qui devait marquer ce soir, c'était moi. Maintenant, c'est la vie. Il faut se remettre de ça, continuer à travailler, que ce soit moi ou l'équipe, et essayer de gagner cette Coupe de France parce que c'est un événement important.
Voilà, Kylian Mbappé, sa réaction après match. Vincent, comment t'as trouvé son match d'abord?
Comme depuis un moment, c'est le champion qui marque plus de buts, qui est dans une espèce
Il y a quelques semaines, tu nous as dit, il n'y a plus de batterie. Il a perdu le chargeur.
Le mec, il a l'œil du veau dans la luzerne. Il est là, il ne sait pas où il est sur le terrain. On ne sait plus, c'est plus lui qu'on a connu en 2018. C'est un gamin qui est un peu perdu. Alors, il y a eu beaucoup de perturbations. D'abord, il y a la fin de son contrat, il s'en va à la fin de l'année. Il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'il sait où il va? Personne ne le sait. J'ai l'impression qu'il est dans une incertitude totale. Ce qui nous intéresse, c'est sur le terrain, il y est plus. Et quand un mec de cette classe n'est pas là, ben, il fait pas gagner son équipe. Alors, ils peuvent gagner. Il n'y a pas que lui qui peut gagner. Les autres, mais, dans des moments où l'équipe, c'est une équipe moyennasse, n'arrive pas à s'en sortir, tu t'attends toujours que Mbappé fasse la différence. Ben, là, il l'a fait plus. Donc, à dégager voie 12, hein. Qu'est-ce que tu veux?
Il le sait.
D'ailleurs, il est honnête. Après, il est honnête. Quand tu fais Vitesco comme ça, à moins d'être sonné, tu...
Non, mais il aurait pu ne pas parler, par exemple.
Il aurait pu ne pas parler, mais à un moment donné, quand t'es obligé de parler, quand t'es une star comme ça, t'es obligé, t'es ton dernier match avec le PSG.
Il y a plus d'enjeu, il peut parler, hein.
Mais c'est ton dernier match, en plus, avec le PSG, il a passé 7 ans. Le moindre respect, c'est de répondre. Il y a les supporters qui attendent des réponses. Il le dit avec toute honnêteté, mais enfin, à la fois, il aurait pas pu non plus nous mentir, de dire, ben, je suis plus dans le coup, j'ai plus les yeux en face des trous, il tire, c'est comme on dit souvent, c'est, il tire à côté, c'est un porno belge. Tu vois, il est plus en phase avec son football. Il a perdu son foot. J'espère qu'il le retrouve parce que là, ça fait déjà un petit moment. C'est quand même.
Est-ce que tu lui vois des excuses?
Des excuses, non, c'est pas le sens exact, le foot. Les mecs, ils sont là, on est là, on dit, il n'a pas marqué. Mais même Jean-Pierre Papin, quand il était au meilleur de sa forme, il avait des trous pendant 2 matchs, 3 matchs, parfois, il a eu des trous dans sa carrière où il marquait pas. C'est comme ça, c'est pas le sens exact, c'est pas 2-2 pour fond 4, c'est 2-2 fond 3,5, et des fois 4,5. C'est pas un peu plus que 4 parce que t'es très brillant. Voilà, c'est ça, tu vois, c'est le problème, il est là. Moi, je vous explique le football.
Eric, est-ce qu'il a encore des excuses?
Écoute, moi, vous savez ce que je pense sur ce garçon depuis un long moment, notamment depuis après la trêve hivernale. Bien sûr qu'il a des excuses. Et moi, je trouve que la gestion de ce garçon cette année par le PSG est catastrophique parce que malgré la situation contractuelle et tout ce qui en découle, on le sait, puisqu'il n'a pas prolongé. C'était sa dernière année, il vous l'a dit officiellement. Donc, mais il y avait moyen de tirer 100% de ce garçon sur cette dernière année pour le bénéfice de tout le monde. Sauf que, enfin, il y a quand même un truc, moi je comprends pas qu'on s'étonne de ça. Vous croyez que quand on fait un mois et demi de préparation en début de saison, c'est pourquoi? C'est pour courir au soleil? C'est pour... Laissez-moi finir, Stéphane, après je vais... Mais oui, mais tu es obligé! Parce que ce que vous comprenez pas...
Sur le mois d'août.
Mais oui! Mais alors, laissez-moi finir mon raisonnement. Vous ne comprenez pas que quand tu es le PSG ou tous les grands clubs européens où tu vas jouer tous les 3 jours toute l'année, et c'est comme au basket, et c'est pour ça que je comprends pas que tu ne comprennes pas, la préparation est très importante. C'est-à-dire que quand tu fais une grosse préparation en début d'année, derrière, c'est plus que des matchs, de la récupération, et du physique ponctuel, notamment de la vitesse. Et donc, un gamin qui rate sa préparation, il ne peut pas faire une grande saison. Et un gamin qui doit jouer tout le temps et que tu sors à la mi-temps plusieurs fois de suite, eh ben, tu le tues, et physiquement et mentalement. Vous ne voulez pas le comprendre, Pirou?
Mais il n'a pas raté sa préparation. Personne n'a raté sa préparation.
Tu hoches la tête.
Mais il n'a pas raté sa préparation. Il a raté 3 matchs.
Tu hoches la tête.
Parce que tu dis n'importe quoi.
Mais non, mais c'est pas pareil de s'entraîner tout seul.
Dis-moi, tu crois qu'ils l'ont mis sur une chaise interdite de bouger?
Mais non, c'est pas pareil de s'entraîner.
Une préparation foncière. Mais non, ça se fait. Il est un club professionnel.
Alors, c'est toi qui as raison. Voilà. Tu joues avec le Media Football Club. Eh ben, c'est toi qui as raison. Mais voilà. C'est toi qui as raison.
Il a été mis au loft. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu le droit de jouer les matchs de Ligue 1 pendant 3 semaines.
C'est toi qui as raison.
En quoi ça perturbe sa préparation physique? En quoi ça perturbe sa préparation physique de début de saison de ne pas jouer les matchs.
Je te dis, c'est
en
toi qui as raison.
Ça répond,
c'est toi qui as raison.
C'est toi qui as raison.
Qui veut poser une question.
En quoi ça perturbe sa préparation physique de ne pas jouer les matchs de Ligue 1?
C'est toi qui as raison.
Donc ils l'ont assis sur une chaise, ils lui ont dit pas bouger.
Mais si tu comprends pas, Pierrot, et pourtant Dieu sait que tu es intelligent. Si tu comprends pas, c'est que tu n'as pas envie de comprendre.
Donc la méforme d'Mbappé, elle est due. Au fait qu'il ait passé 3 semaines dans le loft, et 2 au fait que Luis Enrique a décidé de le coacher au mois de janvier. C'est ça la raison de sa réforme. D'accord. Pour moi, lui, il n'y est pour rien.
C'est la vie d'Eric.
Et donc, cette situation, elle n'est pas du tout du fait de Kylian Mbappé. En aucun cas. À 0%.
Ben, moi, je pense que si tu l'avais géré
autrement... C'est pas lui qui a choisi cette situation,
si tu l'avais, parce que je t'ai expliqué que dans la gestion de Luis Enrique, il y a le problème physique, mais il y a le problème mental. Quand tu tues mentalement, Mbappé...
Tu le tues mentalement
Mais le problème, c'est que ce qui se passe me donne raison à moi, mais c'est toi qui as raison.
Non, après, la Champions League, c'est difficile à gérer. Tu peux l'admettre que ça ne vient pas que de Luis Enrique. Il peut y avoir. Attention, le mec, Vincent. il s'en va, il est géré, on ne sait plus, il a la tête ailleurs. Ça fait déjà 2 ans qu'il a la tête ailleurs. Il veut aller au Real Madrid, il est récupéré. On sait qu'il est difficile à gérer depuis 2 ans. Ce n'est pas la faute que de Luis Enrique. Tu sais bien que quand tu as des champions, c'est des stars d'Hollywood. Très difficile. Et dans une période où il ne sait plus, il n'a plus de certitude sur son avenir. Et je pense qu'actuellement, plus que le problème de préparation physique d'il y a 10 mois, plus que ça, voilà. Je pense qu'il a des incertitudes sur son avenir. Oui, je suis pas sûr que depuis des mois il s'entend bien avec le Real Madrid. Je ne suis pas sûr, et que c'est beaucoup plus important son malaise que la préparation.
C'est vous qui avez raison, Eric, et ce qu'on voit en ce moment depuis 2 mois,
pas de raison. Il n'y a pas qu'une raison.
Avant d'être coaché, avant d'annoncer son départ, il était déjà mauvais.
Pierrot, c'est pas toi qui as raison ou Eric Cator.
Eric,
je suis d'accord avec toi qu'une préparation est importante. Maintenant, c'était au mois d'août. Des blocs de physique, t'en refais pendant la saison pour te refaire une caisse.
Mais non, quand tu joues tous les 2 jours, tu n'en fais plus.
Tu peux, toutes tes explications.
Oh, à NBA, ils jouent tous les 2 jours, ils font des blocs.
Ça traîne jamais en NBA.
C'est pareil.
Arrête de crier. Eric, arrêtez de crier. Je pense qu'à NBA, le problème du bloc est très important au départ parce que ça dure 6 mois, la saison. Je pense qu'en 10 mois, je pense qu'il y a des blocs qui peuvent le remettre en cours de saison.
Eric, la différence de Mbappé sur les 3-4 derniers mois et Mbappé au Paris Saint-Germain, ça ne s'explique pas par 3 semaines qu'il n'a pas fait au mois d'août. Ce garçon n'avance plus, ce garçon ne fait plus de différence. Il a fait une demi-finale de Ligue des Champions, fantôme. Alors tu peux blâmer.
Et donc c'est quoi alors d'après toi? Parce que si c'est pas ce que
il
je
a creux lui aussi parce que
si c'est pas ce que je dis moi, c'est quoi alors?
Parce qu'on lui a trouvé des
comment il fait pour ne plus pouvoir accélérer. Expliquez-moi pourquoi.
À un moment donné,
il a décidé qu'il accélérait plus.
Ne crie plus les gars. C'est pas grave.
À un moment donné, on l'a dédouané sur. Il peut pas jouer en neuf, c'est pas son poste. Il faut qu'il joue à gauche, il faut qu'il joue sur un couloir.
Bah oui, ça aussi.
Hier, il a été sur un couloir quasiment toute la rencontre. Bilan, peanuts. Rien du tout. Donc à un moment donné, il y a un problème. Il a pas le moral, il a pas envie d'être là. Mais il a plus de jus, il a plus de gaz, il a perdu.
Mais pourquoi?
Il a perdu. Mais parce qu'à 25 ans, peut-être qu'il a plus le même gaz.
Donc c'est fini. Il est fini pour le football.
Et ben peut-être qu'il a plus cette capacité d'accélération.
Si vous me dites qu'il est fini pour le football,
qu'il a plus les mêmes qualités.
On verra l'année prochaine.
Personne n'a dit ça.
L'année prochaine.
Pourquoi vous allez être obligé d'avaler des arguments qui ne sont pas utilisés pour les contrer?
Les gars, tu sais bien que quand t'as un problème dans la tronche, t'avances plus sur le terrain.
Oui, mais qui c'est qui met le problème?
Mais je l'ai mis tout seul.
Tu peux le reprocher à personne d'autre. Il a décidé de cette situation seul, envers et contre son club. Il a décidé seul de ne pas prolonger et de ne pas partir. Il avait la possibilité. Donc ça, ce n'est que à lui de l'assumer. Ce n'est à personne d'autre quand même. Il n'y a que lui qui a décidé de cette situation.
C'est toi qui
s'il n'arrive pas à la supporter, eh ben il n'a qu'à s'en prendre qu'à lui-même.
Bon, écoute, toi tu penses que c'est de sa faute, et moi je te dis que tout Mbappé qu'il est, qu'on a fait passer pour un robot mentalement, ce que lui a fait le club en début
qu'est-ce
d'année.
Qu'est-ce qu'il a fait du club de si terrible? Eh ben,
ils l'ont laissé à la maison quand il y avait la préparation et la tournée.
Un joueur qui arrive en fin de contrat, et il l'a fait sortir
régulièrement, et donc ça agit sur le moral. Et moi, quand vous m'expliquez, il n'arrive plus à courir et il n'a pas envie, je me dis ça tombe pas du ciel.
Dis-moi, Dembélé a été coaché autant que lui, et ça lui a pas plombé le moral, hein.
Ah, parce que les mecs qui jouent trop, tu veux les économiser. Mais là, tu reproches que Mbappé est trop économisé, Eric.
Redouane Bougueraba est en train de faire le bonjour à tout le monde.
Bravo, Redouane. Il est là, on peut l'applaudir.
Redouane Bougueraba, qui habite en face. Vous faites trop de bruit, les garçons. Paris, hier, n'avait pas la flamme. Il manquait la flamme à Paris pour pouvoir gagner. Ich bin Frogenfrag, Dortmund.
Ça va, Redouane?
Steve, bonjour. Tu veux conclure, t'étais en train de parler.
Vas-y. Non, mais parfois on reproche à des mecs qui jouent trop de matchs et qu'on veut les économiser. Et là, Luis Enrique, il l'a économisé, mais finalement c'est ça qui lui a fait qu'il n'y a pas de rythme. Il
n'y
a pas de vérité,
À un moment donné, si vous voulez faire les cons et ne pas comprendre ce que je vous explique, eh bien vous avez raison.
C'est très simple.
Voilà, si vous comprenez pas, pour avoir du rythme, il faut jouer, il y a des mecs, des purs simples comme ça,
si tu veux.
Il faut qu'ils jouent.
Éric Pirot, 30 secondes.
Si vous pensez que c'est vous qui avez raison,
Pirot, si tu veux, dans le coaching qu'a fait Luis Enrique avec Mbappé, il ne l'a pas empêché de jouer, il ne l'a pas empêché d'avoir du rythme. Le coaching, il est relatif. Il lui a pas fait faire tous les matchs 90 minutes, c'est juste ça. Et ça ne peut pas expliquer votre performance.
Il n'a pas coupé les jambes comme ça du jour
au lendemain. Non, c'est pas vrai. Tous les joueurs ont été coachés de la même manière au PSG. Il y en a qui ont été très bons.
Pirot, Kylian Mbappé, il va aussi vite que Redouane Rabat.
Non. Il va plus vite que moi.
Non, pas sûr.
C'est juste que pour vous prévenir que Vitinha, il ouvre un bar à Dortmund. Un bar à poteau, ça s'appelle. Vous êtes tous invités.
Votre Vitinha ou le nôtre?
Non, le vôtre.
Ah, ok. Et le vôtre, tu récupères.
Et le vôtre, alors, fait quoi?
On essaie de l'oublier. Alors, vous voulez récupérer.
Il est client chez vous. Le nôtre, il est client. Il sera au client du bar.
C'est un peu trop facile de dire que la gestion de Luis Enrique a perturbé Mbappé. Sa gestion, elle n'a rien d'extraordinaire. Il ne lui a rien fait d'extraordinaire. Ils ont tous été coachés de la même manière. Et dans tous les clubs, ça se passe de la même façon.
Non, ce que tu dis, c'est pas vrai, mais bon.
Tous les clubs font ça s'ils en ont l'occasion.
Les stars des clubs, je ne les ai jamais vus.
Dans le PSG.
Coachés comme ça, jamais. Ronaldo, Messi, Haaland.
Haaland, il sort. Guardiola, il coach Haaland, Eric.
Mais non.
Et même Vinicius, il sort.
Il le coach parce qu'il a été blessé. Il le coach.
C'est pas parce que tu as 20 minutes, 3 fois dans la saison que tu perds ton rythme.
Il a pas été bon. En demi-finale. Et en finale, il a pas coachés.
Au match aller Real Bayern, Bellingham, il dégage. Il est pas bon.
Des fois t'es pas bien dans ta tronche. Vincent. Des fois t'es pas bien dans ta tronche. Ton entraîneur il te sort parce qu'on le voit bien qu'il il c'est pas la faute d'Enrique.
Mais c'est pas ça qui s'est passé. Oh les gars, c'est pas un mec qui est pas bon que tu sors à la 80e minute. C'est un mec qu'on sort à la mi-temps.
Oh là là.
Tu as vu Messi sortir à la mi-temps de ta vie, toi. Tu as vu Ronaldo sortir à la mi-temps.
Oui, mais bon.
Donc alors après, c'est pas Pierrot, il dit que c'est pas grave. Sauf que déjà que il est plus là. Ah bah quand il fait ça, il est plus là.
Voilà.
Donc ne vous étonnez pas.
Ah bon, déjà il est plus là.
Voilà. Merci.
Mais oui, parce qu'il allait partir. Donc il est plus là.
Le problème, Eric, le problème, c'est que tu dis rien, toi.
Allez, on continue en direct de Marseille pour l'arrivée de la flamme olympique. On va accueillir les membres de l'équipe de France olympique originaire de Marseille. On parle voile dans un instant avec Jean-Baptiste Bernaz. Vous êtes sur RMC, c'est le Super Moscato Show.
Il est 15h28, on est en direct du port de Marseille pour l'arrivée de la flamme.
C'est chaud.
On revient tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, le Super Moscato Show en direct de Marseille.
Vincent Moscato.
Allez, on y revient au Mastic, il est 15h32, on est en direct du port de Marseille. L'arrivée de la flamme, vous le savez, avec Eric Dimeco, avec Steve Founébret, avec Adrien Ego et mon petit Pirou. Dans demi-heure, clacasse el programas, comme on dit en espagnol.
Dans une demi-heure, Vincent, tu vas régler le problème du PSG. Est-ce un nouveau fiasco? 32-16 pour participer au débat, mais Vincent va régler le problème. La question moyenne, on l'a pas encore posée, Adrien.
La question moyenne légèrement décalée, puisque Soprano nous a fait l'honneur d'être avec nous à 15h. Eric Dimeco va répondre à la question moyenne tout de suite en premier, en exclusivité. Eric, question moyenne. Si l'OM gagne la Ligue Europa cette saison en finale face au Bayer Leverkusen, champion d'Allemagne, invaincu cette saison, est-ce que pour toi, finalement, ce serait aussi fort que gagner la Ligue des Champions? Ah ben, tu bats le Bayer Leverkusen en finale.
Non mais tu t'imagines une finale de Ligue des Champions, Bayern-Dortmund. Et toi, tu bats Leverkusen qui a été champion d'Allemagne, loin devant. Ça veut dire que tu es champion d'Europe, du monde,
de l'univers.
De l'univers.
Tout simplement d'Allemagne.
Et le public marseillais est d'accord. La France.
Moi, je sais pas, mais il me semble. Hein.
La France du Moscato Show répond non. Mais
champion d'Allemagne.
À seulement 57%, pour 43% des gens qui nous écoutent, qui votent sur X, eh bien, le Bayer Leverkusen battu par l'OM en finale, c'est aussi fort qu'une gagnée de Ligue des Champions. Bravo.
Surtout, ça donne une place en Ligue des Champions. Donc,
le chemin est encore long, quand même,
la conférence. Mais si vous gagnez la Ligue conférence.
Là, c'est pas pareil. Là, si tu veux, c'est.
C'est comme si t'es contre qui? C'est comme si t'es champion du Luxembourg.
Fort, c'est pas être aussi.
C'est pas pareil, c'est pas tout à fait pareil. Pierrot.
Alors, dans une demi-heure, donc, on débat du Paris Saint-Germain. Mais tout de suite, on accueille l'équipe de France Olympique.
RMC. Radio officielle des Jeux Olympiques Paris 2024.
On accueille Jean-Baptiste Bernaz, né à Fréjus, marin de l'année 2022 et champion du monde d'Ilka 7, c'est-à-dire de laser, pour ceux qui connaissent
un peu
l'histoire de
toi. Salut, JB.
Bonjour Jean-Baptiste.
Salut Jean-Baptiste, merci d'être là dans le Super Moscato Show.
Jean-Baptiste, tu vas faire les JO à la maison, hein, parce que ce plan d'eau, tu le connais par cœur. Hein.
Bah, on essaye de se l'approprier depuis maintenant quelques années. Bon, j'ai grandi pas très loin, donc j'y ai déjà fait un peu de voile, on va dire. Et puis là, bah, depuis 3 ans, là, maintenant c'est réel. Je me suis installé à Marseille et puis on essaye de connaître tous les recoins, des gouttes jusqu'au Vieux-Port. Quoi.
Ça sera tes 5e JO ?
5e JO, mais les premiers à la maison, j'étais pas là en 1924.
Ah, est-ce que t'as poussé pour les faire à domicile ou quoi qu'il arrive, t'aurais participé à ces JO 2024?
C'est une excellente question. Ça a fait partie des arguments qui m'ont poussé à continuer ma carrière, parce qu'après 4 JO, je me suis quand même posé la question de savoir si je pouvais les gagner, parce que j'ai essayé 4 fois et j'ai toujours pas réussi. Là, avant de repartir à 34 ans, je me suis dit, bon, est-ce que j'y retourne, j'y retourne pas? Et le fait que ça soit à la maison et que je sois en forme, c'était vraiment un argument de taille.
C'était l'avantage. C'est l'avantage de faire de la voile à la maison, quoi.
Bah, ça nous permet de passer beaucoup de temps sur l'eau et les courants d'air, ils sont quand même très 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 différents à Marseille. Chaque plan d'eau est différent et Marseille, ça déroge pas à la règle avec le Frioul, avec Marseille Vert. Avec la ville qui chauffe beaucoup en plein été, on a toujours des conditions très très.
Qu'est-ce qui est particulier? Qu'est-ce qui peut être surprenant à Marseille?
Eh ben tout, en fait, tout. On peut avoir, déjà ça change d'un jour à l'autre. Ouais. Ça, c'est la Méditerranée. On peut avoir du Mistral très fort. On peut avoir du Vendès comme ces derniers jours. Hier il y avait du Mistral. Aujourd'hui c'est grand beau temps avec du thermique, un vent qui se lève avec le soleil. On a du relief. On a Marseille Vert. On a encore une fois le Frioul qui dérange un peu ces flux d'air. Et donc voilà, c'est vraiment, on a une houle décalée parce que le Mistral il rentre pas, il y a le Frioul, donc la houle fait le tour du Frioul. Voilà, c'est tout ça, c'est des petits, c'est pas grand chose, mais
des détails qui peuvent faire la diff.
Voilà, c'est tout petits détails, les autres ils l'auront pas forcément.
Tu te gares où à Marseille quand t'es ton bateau? T'as pas peur du boat jerking?
Non. Récemment j'ai un ami qui s'est fait voler son bateau. Donc, si vous entendrez parler d'un 31 voilà. Planète, je me perds.
Mais comment on vole un bateau?
Comment on vole un bateau à Marseille? Comment on vole?
Mais c'est compliqué.
Balade-toi un scooter. Balade-toi un scooter, tu vas voir.
Non, c'est pas une règle, c'est pas une règle. Non, j'ai pas de problème de voiture.
D'accord.
Jean-Baptiste, ça va être tes 5e Jeux Olympiques. On sait que c'est particulier parce que c'est à Marseille, ça veut dire pas de village olympique. Est-ce que tu as déjà connu, toi, un village olympique où toutes tes épreuves sont à chaque fois à part et tu peux croiser personne, pas les grandes stars? Est-ce que ça te manque, ça?
Alors, on les a toujours connus. En général, on arrive à passer quelques jours en fin de championnat ou en début, hein, suivant quand est-ce qu'on sont nos épreuves. Et là, cette année, je vais quand même essayer d'aller faire la cérémonie d'ouverture parce qu'on commence que le 1er août.
D'accord.
Dans ma catégorie. Donc, on les connaît un petit peu, les villages. Mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment passé les Jeux Olympiques dans un village au complet.
Jean-Baptiste Bernaz dans le Super Moscato Show.
Petite question, parce qu'on n'est pas loin du bar de la Marine, et puis c'était la 50e année, l'anniversaire des 50 ans de la mare de Marcel Pagnol. Est-ce que c'est vrai que c'est dans la Marine qu'il y a le plus de cocu, Jean-Baptiste? 40, comme il disait.
Elle a dû mettre la couche sur la question, là.
Je ne sais pas pourquoi.
Tu l'avais pas répété, ça.
J'avais pas bossé, celle-là.
Donc si tu veux répondre, Jean-Baptiste, voilà.
Non, mais on est juste. C'est pas possible de répondre à ça, j'en sais rien.
Non, parce que.
C'est un concours.
Dans le rugby, par exemple, il y a beaucoup de cocu, on le sait.
C'est toujours été un concours avec la marine et les chefs de gare. Vous savez pas qui est le plus cocu.
Vous êtes en forme, c'est
un vrai. Jean-Baptiste, est-ce que les bateaux, c'est tous les mêmes? Qu'est-ce qui fait la différence? Il y a un grand favori dans ta catégorie ou c'est juste uniquement la lecture du vent, les trajectoires, les prises de trajectoire qui font la différence?
Effectivement, dans ma catégorie, c'est un peu spécial. Ma catégorie, c'est tout le monde a un bateau qui est tiré au sort en début de championnat, donc tout le monde a vraiment le même, un bar neuf. Ce qui fait la différence, c'est un peu comme au rugby, hein, tout le monde a le même ballon et tout le monde court
sur le même terrain. Ouais.
Voilà, donc c'est un peu de physique, un peu de tactique, la connaissance du plan d'eau et puis la technique. Et moi, dans mes adversaires directs, là, ça fait 2 ans qu'on a un Australien et un Anglais qui sont très très forts. Ils sont redevenus humains à la dernière compète. Hein, ils sont descendus un petit peu du podium. Mais voilà, on va essayer de les. On a vu qu'on pouvait.
Il te manque que ça dans ta carrière, une médaille olympique.
C'est ce que je recherche en tout cas. C'est pour ça que je suis encore là. Ouais.
Alors en 4 éditions, t'as pas de médaille. Qu'est-ce qui fait que ça peut être cette fois-ci? Pourquoi tu crois plus?
Le supplément d'âme, la maison, le public, la famille, les proches. Voilà, on se sent vraiment porté. J'ai pas l'impression d'avoir 37 ans aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir.
Tu le fais pas, JB, tu le fais pas.
Ça fait plaisir, merci.
Non, mais justement, il faut aussi, entre guillemets, se protéger parce que on voit l'engouement aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, à Marseille, c'est la folie. Tu vas devoir gérer des sollicitations, tes proches qui te demandent des places.
On n'a pas le recul d'avoir des spectateurs comme au foot ou au rugby.
C'est nouveau,
c'est très nouveau. Maintenant, Bah moi je le prends comme un plus en fait, c'est l'énergie qu'on nous donne, les gens sont bienveillants à part de temps en temps
Vincent,
il y a un peu chaud. Non, globalement tout le monde est bienveillant, donc c'est vraiment de la bonne énergie. Bien sûr qu'à un moment donné on rentrera un peu dans notre fameuse bulle.
Ouais.
Et à ce moment-là ce sera facile, on sera sur le village et le village voile et ce village il sera pas accessible à tout le monde, donc c'est clair que
j'ai peur maintenant. Je peux une question intelligente?
Oui, alors la mâchoire, bien la mâchoire souple.
Là on est d'accord que la rade là de Marseille, là où vous allez courir, c'est un stade de foot parce que vous allez presque pouvoir voir les supporters pour une fois. Est-ce que tu as cette sensation-là ou naviguer dans un stade?
C'est la volonté qu'on a. Donc dans la rade sud, elle est coupée en quatre zones et il y a une zone qui est un peu plus médiatique et sous la corniche. Et là, celle-là, elle est vraiment réservée à l'accessibilité au public. Surtout la finale, nous on a une finale à la fin qui se passe à 10 bateaux et celle-là il la rapproche du bord au maximum pour que tout le monde puisse profiter. Et puis il y a toute la technologie avec les écrans, les bateaux comme la Coupe d'Amérique où on voit les bateaux évoluer. Donc ça, j'espère que ça va amener beaucoup d'engouement autour de la voile.
Jean-Baptiste Bernaz, donc champion du monde de laser avec nous. Alors on dit laser, c'est une appellation un peu plus connue que la nouvelle appellation qui est l'île K7. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton bateau? C'est une toute petite embarcation, c'est une sorte de dériveur.
Ce qui parlera à tout le monde, c'est l'optimiste. Hein. Tout le monde a fait un peu d'optimisme. Tout petit peu plus gros, ça fait 4,20 m avec une seule voile, très basique. Hein. C'est un bateau qui a été inventé en 1970 pour mettre sur le toit de la voiture et aller passer un week-end. Le bateau il fait 58 kilos, il y a qu'une seule voile, c'est très simple.
Petit baigneur.
Voilà, c'est le bateau qui est le plus répandu dans le monde. On en est à 230 000 bateaux distribués dans le monde entier.
Il y a une marque qui prédomine.
Un monotype, c'est-à-dire que à l'époque c'était un peu différent. Il y a plusieurs marques. C'est pour ça qu'il a perdu son nom laser, c'est que le propriétaire du nom, il a plus le droit de fabriquer les bateaux. Bon, ça c'est un détail de l'histoire.
En quoi, Vincent, si tu voulais mettre ton bateau toi sur ta voiture, il faudra un autocar toi pour ce que ton bateau. Il est un peu grand.
Ça te fait rire. Ça c'est une blague, ça. C'est des blagues comme ça, tu vas sur RTL.
Explique-nous quelle est la dimension physique.
Il fait 4,20 m.
Mais toi, physiquement?
Moi, je fais 1m90, 85 kg à peu près.
Qu'est-ce que ça te suscite comme effort physique?
Tu montes dans le cardio.
On dirait pas quand on me regarde. Non, mais ce que tu vas dire.
À quel niveau tu es dans le dur, dans le rouge? On se rend pas compte, nous. Là.
En gros, on a plusieurs phases dans la course. Ça dure une heure. On a deux courses par jour. D'une heure. Oui. Et on a 15 minutes où on est ce qu'on appelle au rappel, c'est-à-dire on est tout à l'extérieur du bateau, mais pas tenu par un câble, à l'inverse du trapèze. Et donc on pendouille un peu entre nos pieds et nos quadriceps et nos abdos.
Non, mais tu sors tes crampes, t'es.
Voilà,
t'es
on est ça, brûlé, ça, c'est le côté purement musculaire. Et puis en cardio, normalement, on monte entre 180 et 190 quand il y a du vent fort.
Hein. Ouf, comment ça marche la compétition? Ce sont des régates au contact. Hein, vous êtes tous ensemble sur le pando.
On a un départ qui est donné. Nous, c'est pas autant. Hein. C'est vraiment, il faut être devant les autres. Et puis le premier de la course, c'est un circuit. Hein. Le premier du parcours, il marque un point, le deuxième deux points, le troisième trois points, etc. Et puis, à la fin du championnat, on a le droit à un joker. On peut se rater qu'une seule fois. Donc, après 10 courses.
La moins bonne perf est éliminée, annulée.
Et après 10 courses, celui qui a le moins de points, il a gagné.
Ouais, c'est pas Einstein qui a fait le truc.
Exactement. Je savais que je pouvais venir parler ça ici. Ouais, c'est cool.
Tout le monde comprend. Pierrot et Steve, hier, vous avez fait de l'optimiste, vous aussi. Et puis moi, je vais faire demain de l'optimiste.
Toute la saison, on a fait de l'optimiste.
Moi, demain, je vais faire de l'optimiste aussi.
Écoute. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Bernard.
Merci à vous.
Après ta carrière, qu'est-ce que tu aimerais faire? Mettons des transats, des trucs comme ça, c'est compatible?
C'est pas impossible. En tout cas, moi, tout ce qui touche à la voile, ça m'excite beaucoup. La Coupe
de l'Amérique, là, où vous êtes 25 sur un bateau, là, mouliné, comme ça, ça peut être bonheur, ça.
Mon rêve, c'est plutôt la Coupe de l'Amérique.
Ouais,
et puis là, on a une belle équipe française qui. Donc la Coupe sera juste après.
Il y a des transats et tout, un truc comme ça.
Ou sinon, quand tu as fait de la voile, tu peux faire de la.
Oh là là, il faut libérer Dimeco tout de suite, là. Merci Jean-Baptiste.
Merci. Non, je veux la blague jusqu'au bout.
Non, on a un monsieur qui a un truc qui pousse sur le front, là. Vers 16h, c'est l'heure de la sieste en général, c'est sorti.
On est en direct de Marseille pour l'arrivée de la flamme olympique. Merci, et dans un peu moins d'une heure, on sera avec Denis Gargaud, champion olympique de canoë.
Gargaud de
Rio en 2016. Tout de suite, c'est le premier journal moyen du Super Moscato Show.
J'ai une information RMC très sérieuse, Vincent, information RMC Sport. Une grande star internationale sera une des stars de la fin des JO de Paris 2024. Ah. On a enquêté, on sort des infos sur RMC, des infos mondiales, reprises dans le monde entier t'es un journaliste d'investigation.
C'est une agence d'infos, c'est comme Reuters ou des trucs comme ça, mais encore plus poussé.
On n'a pas eu le temps, on va parler un peu garbure quand même. On n'a pas eu le temps hier, mais je sais que tu aimes bien la garbure. Tu t'en resserres, toi, tu en reprends de la garbure.
La garbure, c'est quand même gérer la ligue, la garbure, tous les trucs. Voilà, mais c'est ça, dans les vieux pots. Tu mets de la garbure à faire chauffer auprès de la cheminée.
Et un jeune de 25 ans qui va trouver un job en Espagne. cherche un appartement. Je pense qu'il en a trouvé un, Vincent. Même deux.
Ah ouais. Oui, je vois qui c'est.
Mais il gagne plutôt bien sa vie.
C'est ouais, ça va. Allez, on est dans le super Moscato Show. On revient tout de suite. On est à Marseille avec les Marseillais.
Venez nombreux sur le Vieux-Port.
Voilà, venez nombreux sur le Vieux-Port. On est là pour l'arrivée de la flamme. Allez, on arrive tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, le super Moscato Show en direct de Marseille pour l'arrivée de la flamme.
Vincent Moscato.
Allez, on y revient au Mastic, il est 15h46, on est en direct du port de Marseille pour l'arrivée de la flamme. C'est le journal moyen d'Adrien Higouin, première édition. Oui, il y a du vent. Il y a du vent.
Il y a du vent, on a perdu ses feuilles, mais c'est comme ça.
C'est pas grave.
Ça, c'est le journalisme de terrain.
Port de Marseille.
On est des reporters.
De guerre.
De terrain. Oui. Voilà. À la une du journal moyen, première édition, Vincent, parle gastronomie diplomatique. Diplomatie gastronomique, je sais pas comment on dit. Tu la pratiques souvent, ça, Vincent.
Ouais, ouais.
Tu souvent tes contrats autour d'un bon cassoulet.
Pas vraiment ce gastro que j'ai, moi, mais que je pratique souvent, mais vas-y.
Un jeune de 25 ans qui a trouvé un job en Espagne. Cherche un appartement. C'est pas facile hein, quand on part à l'aventure à 25 ans comme ça.
C'est Erasmus, c'est Erasmus.
C'est un Erasmus, mais haut de gamme.
Ouais.
Et puis, Artus, Vincent, que tu connais bien, fan de rugby.
Ah oui.
Alors lui, il a un petit truc en plus en ce moment.
Ah oui, oui.
Il
oui,
a
oui.
beaucoup de trucs en plus.
Quelques entrées.
C'est incroyable ce qui se passe pour Artus et son film et son film au cinéma. Vous écoutez RMC, c'est le 1828e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show.
En direct de la rédaction d'RMC. Toutes les infos que vous n'avez pas entendues sont dans le journal moyen. Première édition.
Alors Vincent, souviens-toi, il y a quelques jours, je te racontais l'histoire de Tom Cruise. Tom Cruise aperçu dans Paris, dans la nuit du 25 au 26 avril, filmé par des riverains, filmé par des touristes en pleine nuit sur une moto, en train de rouler sur les Champs-Élysées, sur l'Arc de Triomphe, dans le 14e. Dans le 15e également, il a été aperçu sur une moto, une Harley Davidson avec un drapeau blanc derrière. Tout le monde, toute la presse, tous les médias ont titré Tom Cruise tourne Mission Impossible 8, la partie à Paris, les cascades.
Mais
en fait, eh bien, tous les médias s'étaient trompés, Vincent. Mais pas nous. En fait, Tom Cruise, c'est une information RMC Sport, révélée par RMC. Tom Cruise est en tournage secret en vue de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024.
Ah ouais.
Tu sais que cette cérémonie est aussi une clôture, mais une bascule vers les prochains Jeux Olympiques qui se dérouleront en 2028 à Los Angeles. Donc,
ah oui.
Tom Cruise était en train de tourner des scènes qui seront diffusées lors de la cérémonie de clôture.
Ah.
Et en gros, le drapeau
oui.
derrière blanc et la flamme olympique, en réalité,
ah,
qui sera
oh
ajoutée en incrustation, en post-production, toi qui connais le cinéma.
Ah,
donc, information RMC, Tom Cruise
le feu au cul.
fera partie, c'est énorme quand même, c'est la grande
c'est-à-dire
star internationale.
Il va partir de Paris avec la flamme et il va aller à Los Angeles.
Alors, j'ai pas le scénario, on n'a pas le scénario exact. Il va partir avec la flamme à Los Angeles. Voilà, il va transposer la flamme pour les prochains JO chez lui à Los Angeles. Il a déjà porté la flamme en 2004 pour les JO d'Athènes également.
Et c'est les Japonais qui avaient été géniaux avec Mario et
Mario Bros. Après,
Luigi, Mario et Luigi qui traversaient le globe.
Et après,
en 2012, la reine d'Angleterre qui sautait d'avion avec.
Ça c'est l'ouverture, ça.
Ça c'est l'ouverture. Avec Mr Bean et tout, c'est merveilleux.
Avec James Bond.
Oui, mais après il y a Mr Bean aussi qui fait la musique. Ça c'était l'ouverture.
Bonne idée ou pas, Tom Cruise. Pour clôturer les JO.
Alors le problème de Tom Cruise, c'est que vu son âge, il les verra peut-être pas les Jeux.
De Paris 2024, oui.
Oui, non, mais les autres.
Ah, ben 2028.
Le problème, il est là.
On attend surtout la cascade en direct, faite par Tom Cruise. C'est surtout ça qu'on attend.
Mais non, bah parce qu'il va.
Il fait ses cascades lui-même.
Il arrive à fond sur un tremplin, tchac, et après il va arriver.
À LA,
ce qui est génial, c'est que tout le monde a cru que c'était pour Mission Impossible 8. En fait, non, c'était pour nous, c'était pour la France, pour les JO et pour ces JO à lui à Los Angeles. Bravo, Tom. Voilà, bravo, Tom.
Bravo, Thomas.
Tu crois qu'il arrive à faire une roue sur Pierrot avec sa moto, Tom Cruise?
Même sur les deux roues.
Eric, tu fais une roue. Tu fais des routes, hein.
Attends,
c'est ma spécialité.
Et tu vois pas qu'ils sont sur les deux roues avec une perche à la machine.
Si vous doutiez dans la voiture, oui, vous êtes bien sur RMC. Hein, vous n'êtes pas trompé de radio. Voilà, merci de le rappeler, Vincent.
Oui.
Gastronomie, diplomatie, gastronomie. Vincent, depuis dimanche et jusqu'à hier, le président chinois Xi Jinping était en visite d'État en France. Choix étonnant du président de la République Emmanuel Macron. Il a décidé de l'emmener déjeuner hier midi à la Mongie, dans les Hautes-Pyrénées, à 2150 mètres d'altitude, à l'étape du berger, au col du Tourmalet, étape mythique du Tour de France. La grand-mère du président vivait à Bagnères-de-Bigorre et Éric Abadie, le patron de ce restaurant, est un ami intime d'Emmanuel Macron depuis que le président est tout petit. Alors, on n'était pas sur un menu qu'on retrouve traditionnellement dans les menus d'État et de visites d'État. On est sur quelque chose qui colle au corps, Vincent.
Il met cassoulet.
Il a voulu surprendre.
Quand il est reparti dans la carbure.
Il a voulu surprendre la délégation chinoise. Je vous donne le menu. Vous me dites si vous aimez ou pas Pierrot. Je sais que tu es un habitué de Bagnères de Bigorre et de cette région. On a commencé avec une petite découpe de jambon de porc noir.
Ouais, c'est magnifique.
C'est magnifique.
Ah ouais. Accompagné de garbure.
Oui.
Qui est une soupe typique du Béarn. On va y revenir. Ensuite, déjà ça commence à.
Ah ben là, ça cale, hein. Déjà,
tu enchaînes ensuite, Vincent, avec une épaule d'agneau. Avec des haricots tarbés, les fameux
il a dû partir sur les aéroglisseurs, le Jean-Pierre. C'est-à-dire qu'il a dû mettre ses loufs le soir,
têtes,
au lit.
Des têtes de cèpe et des légumes glacés. Les deux chefs d'État.
C'est le doigt de pied, c'est le doigt de pied de Vincent.
Et les deux chefs d'État ont eu du fromage des Pyrénées, des Hautes-Pyrénées, et ensuite, comme si ça ne suffisait pas, ils ont conclu. Avec une tarte aux myrtilles.
Oh, ça c'est bon, ça.
Est-ce que ça vous donne envie?
C'est un délice.
Ah ouais, non, mais moi j'adore. Non, mais attends, les Pyrénées, c'est incroyable. C'est extraordinaire. Tu manges bien la garbure et tout. Ils ont dû se régaler.
Alors, il avait sa grand-mère
qui était à Bagnères de Bigorre. Tu te rends compte? Mais c'est l'héros, c'est son grand-père. T'as une maison à Bagnères de Bigorre?
Non, c'est Bagnères de Luchon.
Ah! Peut-être qu'ils se sont croisés, ton grand-père, il a bien coup de cœur à la grand-mère de Macron. Tu te rends compte? Ça se recoupe, ils sont demi-frères. Regarde la tête, il a les yeux bleus.
L'intelligence.
Comme quoi, on n'est pas égaux devant la génétique. Hein.
Mais non,
il y en a
si.
Un qui a été très réussi, l'autre un peu moins.
Mais lequel?
Alors, sur la garbure, c'est énorme.
Il y en a une de droite et l'autre, bon.
C'est quoi la garbure?
Alors, les deux sont de gauche.
La garbure, c'est une sorte de grande potée avec des légumes, avec du confit de canard. C'est une grande soupe mais des Hautes-Pyrénées. Voilà, c'est très, ça colle au corps. Et
les faillots de tarbes.
Avec des haricots tarbés, évidemment.
Papy Fayot, comme il dit.
Moi, j'aime bien les coulisses de ces déjeuners d'État, parce qu'il y a eu un débat sur la garbure. Parce que Emmanuel Macron a dit au chef d'Abadie.
On a deux doigts d'une guerre mondiale, les mecs, ils font un débat sur les haricots.
Entre Emmanuel Macron et le chef Éric Abadie. Parce qu'Emmanuel Macron lui a dit attends, on est au mois de mai. On va pas faire la garbure. Mais attends, écoutez, Éric Abadie qui est passé chez Apolline de Malherbe sur RMC le matin, pour lui, il n'y avait pas de débat possible. Il a imposé ça au chef d'État.
Oui, Abadie.
Et moi, je lui ai proposé en plus la garbure parce qu'il voulait pas la garbure. Mais j'ai dit, écoute, c'est pas typique, surtout que bon, il ne va pas faire trop chaud. Donc la garbure, ça va être d'actualité. Donc comme il y a la garbure, ils mangeront un peu de garbure aussi.
Voilà, il y a la garbure, il n'y a pas le choix.
Il a rajouté, il ne va pas le casser les couilles.
Non, mais c'était Emmanuel Macron qui ne voulait pas.
Mais on sait s'il a aimé.
A priori, alors je sais que ce menu a eu énormément de succès.
D'accord.
Je le sais.
Et par contre, j'ai vu Cola Gréco, le chef Cola Gréco qui était là. C'est vrai ou non?
Je ne sais pas.
Parce que je l'ai vu en photo avec le président de la République.
Mais si tu l'as vu en photo, c'est que.
Donc il a participé, pourtant, ce n'est pas sa cuisine.
Et Philippe Etchebest aussi qui était là.
Non, Cola Gréco y était, j'ai vu la photo.
Sans transition.
Alors que ce n'est pas sa cuisine.
Immobilier dans le journal moyen, immobilier pour les jeunes.
Super intéressant, Eric.
Non, mais si vous n'avez pas de culture, si vous intéressez à rien, ballon,
je
parle plus avec vous, moi.
Un sujet important dans la société d'aujourd'hui, les amis, c'est l'immobilier pour les jeunes. L'accessibilité au logement quand on part vivre à l'étranger, c'est pas simple. On aime parler immobilier dans le journal moyen première édition. Oui. Un jeune, Vincent, un jeune qui s'appelle Kylian Mbappé, va travailler certainement à Madrid. Je pense qu'il a, il a des plans pour travailler à Madrid. Donc, il cherche un logement. Selon les médias espagnols, le média espagnol qui s'appelle Vox Populi, l'entourage de Mbappé, dont sa maman qui le représente, ont déjà conclu un accord pour au moins un logement. Logement particulier à la Moredeja, un quartier résidentiel aisé de la municipalité d'Alcobendas, dans le nord de la communauté de Madrid. Sergio Ramos est occupé ce logement lorsqu'il évolue encore au Real Madrid. Alors c'est un avantage, c'est pas loin du travail. C'est à côté du centre d'entraînement, donc pas besoin de prendre les transports en commun, pas besoin de faire une heure de traverser Madrid. Elle aurait négocié également, la maman de Kylian, selon ce média espagnol, une deuxième résidence à l'achat à la Finca, quartier de haute sécurité à Pouzuelo de Alcarón, à l'ouest de Madrid. Le prix estimé, selon ce média espagnol, j'ai pas vu le contrat, mais selon le média espagnol, de chaque propriété, 20 millions d'euros.
Donc il a des moyens quand même.
Donc,
20 millions et 20 millions.
Pourquoi en faire deux?
40.
Parce que
y a
la famille.
Il y a Wilfried à côté
qui pourrait répondre à cette question.
Parce que
8 maisons.
Non, mais les parents.
T'as déjà eu plusieurs maisons en même temps, Vincent?
Wilfried à droite et Faïsa à gauche.
T'as déjà eu, Vincent, plusieurs maisons en même temps? Non.
Non.
J'aurais aimé.
Non, mais il y en a une qui est à côté du travail et l'autre c'est pour se reposer.
Ouais, pour la sieste.
Pour la sieste. Il y en a une pour ses parents.
Il y a la famille, il y a les parents, il y a le frère, il y a les amis. Voilà.
C'est la maison du personnel.
Donc il fait suivre ses parents tout le temps, quoi. Avec ses gars, il a besoin de sa maman. Parents, qui vient.
Toi, tu peux chier ta maman avec toi tout le temps, ton enfant.
Moi, j'ai ma mère aussi qui vient.
Bon voilà, bon, si on était inquiet pour la capacité de Kylian de trouver un logement pour son nouveau travail en Espagne, je pense qu'il n'y aura pas de soucis.
C'est le quartier nord de Madrid.
Oui, quartier nord.
Tous les quartiers nord, même à Marseille, c'est très très cher, hein, à quartier nord.
Tu dis ça parce qu'on est à Marseille,
il y a des maisons de 20 millions de.
Eric, t'as une maison là, le quartier nord, c'est 20 millions, non?
Là, c'est un quartier nord.
Non, parce qu'Eric, il est en train de faire une petite piscine chez lui.
Il fait une pédiluve. Une piscine pour te tremper les pieds.
Eric nous a envoyé la piscine qu'il est en train de faire.
C'est une baignoire.
Je fais une piscine chez moi, c'est une petite baignoire. Voilà.
C'est scroquerie. En vérité, il veut vendre la maison. Il a fait une piscine, il fait des photos comme on prend de loin. On fait 25 mètres la piscine.
On est toujours en direct de Marseille. L'arrivée de la flamme olympique est prévue à 19h39 tout à l'heure. Ici sur le Vieux-Port, Didier Drogba, invité exceptionnel à 17h sur RMC. Et après les infos, le PSG, est-ce un nouveau fiasco? Vincent Moscato règle le problème avec vous au 32-16. A tout de suite.
Il est 15h56, le Super Moscato Show, on vient tout de suite.
C'est jusqu'à 18h,
le Super Moscato Show en direct de Marseille pour l'arrivée de la flamme.